Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Appel d'air, une émission aujourd'hui consacrée à un personnage mythique puisqu'il s'agit de Sherlock Holmes. Son auteur, Sir Arthur Conan Doyle, a raconté ses aventures dans 56 nouvelles et 4 romans, écrits entre 1887 et 1927. De nombreux écrivains se sont à leur tour appropriés ce personnage sous forme de romans, de pièces de théâtre, de bandes dessinées également. Les aventures du célèbre détective ont été aussi portées à l'écran plus de 200 fois dans le monde, et cela juste pour le cinéma, c'est sans compter les séries télé. Par contre, l'univers de la musique, lui, s'y est un peu moins intéressé. Je vous ai quand même trouvé une chanson de 1934 du groupe américain Spirits of Rhythm, une chanson dans laquelle le groupe imagine un dialogue entre Sherlock et son ami John Watson. La chanson s'intitule « Dr. Watson and Mr. Holmes ».
Wait for that famous sleuth.
Must be Sherlock, that's the truth.
Elementary, Dr. Watson.
You are amazing, Mr. Holmes.
Say, no detective stands a chance.
Well, how about the file of
ads? Say, he's a good man, Dr. Watson.
Amateurs, Mr. Holmes.
When they have a crime wave and the papers all rave and they're hollering for a showdown, the inspector conceded he's gotta have me.
Quick, Sherlock. Slow down.
Cops can't even solve a crime.
Bound to miss it every time.
Now ain't that awful, Dr. Watson?
Simply lousy, Mr. Holmes.
When policemen have a case where they raid some gambling place, how they muff it, Dr. Watson?
What's the reason, Mr. Holmes?
Well, by the time the cops catch on, all the evidence is gone. Must be dummies, Dr. Watson.
Why, they're morons, Mr. Holmes.
While they're looking around, not a thing to be found. All the gambling rooms and lobbies, and the rattle of dice is the tangle of ice.
Look, a Sherlock, the bobbies.
Why, Inspector, howdy do.
Sherlock, I'll be seeing you.
Now, where you going, Dr. Watson?
To China, Mr. Holmes. As fast as back and forth, as bad as bad as bad as bad as bad as bad
as bad as bad. Le monde de la bande dessinée s'est intéressé à Sherlock Holmes et je vous propose de découvrir la série du scénariste Luc Brunswig et du dessinateur Cécile, parue aux éditions Futuropolis. Cette série s'appelle Holmes. Le point de départ de la série, c'est la disparition de Sherlock le 4 mai 1891 dans les chutes de Reichenbach en Suisse, avec son ennemi, le génie du crime, Moriarty. Cette scène, Watson n'y a pas assisté, il a juste trouvé la lettre posthume laissée par Holmes. Il s'apprête à raconter cette mort afin qu'elle soit publiée dans le magazine Strand, magazine dans lequel toutes les aventures du fameux détective ont été publiées. Watson est en plein deuil en ce mois de mai 1891, mais la disparition de son ami ne va pas forcément mettre fin à ses aventures. Il apprend d'ailleurs, dans un premier temps, qu'un cambriolage a eu lieu au 221B Baker Street. L'appartement de Sherlock a été pillé, ravagé. Le docteur va enquêter avec l'aide de Wiggins. Wiggins, c'est un ancien gamin des rues que Sherlock avait pris sous son aile. Il avait commencé à lui enseigner les ficelles de son métier, et depuis, Wiggins se proclame détective privé amateur, chaudement recommandé par Sherlock Holmes. Watson va être ensuite confronté à une deuxième intrigue. Le frère de Moriarty s'oppose à la publication des événements de Reichenbach. Il conteste le portrait criminel dressé par Watson, et il affirme que des témoins peuvent confirmer que James Moriarty n'était pas en Suisse ce jour-là. Au cours de ces deux enquêtes, Watson et Wiggins vont croiser Mycroft, le frère de Sherlock, et ils vont chercher à en savoir plus sur le passé du détective et sur l'histoire de la famille Holmes. Watson va ainsi avec sa femme Mary tenter de rencontrer les parents de Sherlock. Le père est un homme âgé qui semble perdre la tête. Son enquête va l'emmener jusqu'en France, dans la ville de Pau. Cette série joue sur les zones d'ombre du personnage et elle a donné lieu pour l'instant à 4 tomes. Il en reste encore 2 à venir. C'est une série qui a débuté en 2008. Les auteurs prennent leur temps et le dessinateur, Cécile, tient à ce que son dessin soit le plus crédible possible. Il a le souci du détail, il mène de nombreuses recherches afin qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des décors et des costumes qu'il veut le plus fidèle possible à l'époque victorienne. La série est dessinée dans des teintes bleues et grises. Quand certains passages font référence à des moments plus anciens, il utilise des teintes ocre pour marquer la distinction. Le dessin de Cécile est très soigné, très détaillé. Le tome 4 de la série est paru fin 2015. On attend toujours la sortie du tome 5. Holmes est une bande dessinée publiée aux éditions Futuropolis.
We'll be right back.
The Dirt Bombs avec le titre Sherlock Holmes, qui est en fait une reprise du groupe Sparks. La chanson originale date de 1982. Si l'on sait beaucoup de choses sur la vie du détective à l'époque où il enquêtait, on connaît moins la fin de sa vie. Et c'est justement cette période que l'écrivain américain Mitch Cullin a choisi d'évoquer dans son roman Les abeilles de Monsieur Holmes. C'est une curiosité ce roman puisque l'auteur y imagine un Sherlock Holmes âgé de 93 ans. Nous sommes en 1947, Sherlock vit à la campagne dans sa maison isolée du Sussex depuis 40 ans. Il s'y consacre à sa passion pour les abeilles et il rédige d'ailleurs depuis plusieurs années un manuel d'apiculture. Il prend soin de ses ruches avec l'aide du jeune Roger, un gamin d'une dizaine d'années qui est le fils de la gouvernante Mrs. Munro. Roger, lui aussi, est fasciné par les abeilles et il est devenu l'assistant de Sherlock et finalement aussi son seul ami. Le docteur Watson, Mrs. Hudson, mais aussi son frère Mycroft sont tous morts. Le célèbre enquêteur se retrouve bien seul. Le quotidien du détective dans la campagne anglaise nous est raconté dans ce roman en alternance avec deux moments précis de sa vie. Il y a d'abord son voyage récent au Japon, où il a retrouvé M. Umazaki, avec lequel il échangeait des lettres autour de leur passion commune pour les abeilles et les plantes. Holmes, en vieillissant, perd ses facultés mentales, il en est conscient, et il consomme tous les jours de la gelée royale. Au Japon, il espère trouver l'Aralia spinosa, une plante qui permettrait de lutter contre le déclin du corps et de l'esprit. Son voyage est aussi l'occasion pour lui de découvrir un pays qui se remet difficilement de la Seconde Guerre mondiale, et il se rend d'ailleurs à Hiroshima. L'autre épisode de sa vie qui est abordé est lui beaucoup plus ancien, il remonte à 1902. Il s'agit d'une affaire qu'il avait tenté de rédiger lui-même, même s'il avait bien conscience qu'il n'avait pas les talents littéraires de son ami John. Cette affaire concerne une femme mariée, Mrs. Keller. Son mari était persuadé qu'elle était victime d'un charlatan adepte de spiritisme. Holmes, qui est plutôt réputé pour être en général insensible envers la gente féminine, avait tout de suite été fasciné par la photographie de Mrs. Keller. Sherlock Holmes est souvent décrit comme un être asocial, voire froid, et ici on découvre dans ce roman un homme vieillissant qui sent qu'il décline, qui se penche parfois avec nostalgie sur certains de ses souvenirs. C'est un homme seul et touchant qui apparaît sous la plume de Mitch Cullin. Le roman Les abeilles de Monsieur Holmes est paru en 2007 aux éditions Naïve. Il a été adapté au cinéma par Bill Condon sous le titre Mr. Holmes. Et c'est le formidable comédien britannique Ian McKellen qui incarne le détective, un comédien qu'on connaît beaucoup pour son rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Le film est une adaptation fidèle du roman et met surtout en avant la relation d'amitié entre le vieux détective et le jeune garçon. C'est un film qui livre de belles images et qui repose surtout sur les épaules de Ian McKellen. Mr. Holmes est sorti au cinéma en 2015.
Sherlock, the home, Sam's baby, got an
À l'instant, nous avons écouté The Coasters avec leur titre Searching. Dans cette chanson, il n'y a en fait qu'une seule référence à Sherlock Holmes. Le groupe y raconte que pour chercher le grand amour, ils n'ont pas besoin de Sherlock Holmes ni d'autres détectives célèbres comme Sam Spade ou Charlie Chan. C'est une chanson qui date de 1957. Nous retournons maintenant dans les rues de Londres à la fin du 19e siècle avec une autre série de bandes dessinées intitulée Les Quatre de Baker Street. Au scénario, Jean-Blaise Dion et Olivier Legrand et au dessin, David Etienne. Ici, le célèbre détective est plutôt un personnage secondaire. Les héros, ce sont en fait trois gamins d'une douzaine d'années, trois gamins des rues de Londres. Il y a Tom, dit Black Tom, un Irlandais originaire de Kilburn, un orphelin habitué des cambriolages. Ensuite vient William Fletcher, dit Billy, qui considère Holmes comme son mentor. Et enfin Charlie, le dernier arrivé de la petite bande dont la mère est internée dans un asile. Sherlock Holmes surnomme ses enfants les francs-tireurs de Baker Street. Le détective fait appel à eux pour mener des filatures et lui donner des renseignements. Ils connaissent bien aussi le 221B Baker Street et donc le Dr Watson et les bons gâteaux de Mrs Hudson. Dans le premier tome, intitulé L'affaire du rideau bleu, une amie de Tom est kidnappée. Les gamins se rendent à Baker Street, mais le détective est malheureusement absent. Ils vont devoir se débrouiller sans lui et enquêter dans les quartiers malfamés de l'East End. À la fin de cet album, on découvre le quatrième de la bande, quatrième choisi par Charlie, qui est en fait un chat que Charlie va appeler Watson. Dans les tomes suivants, Sherlock Holmes sera parfois plus présent. Selon les affaires, vous y croiserez des anarchistes russes qui fuient la police politique du tsar. Vous découvrirez l'univers sordide de l'asile de Bedlam. Vous croiserez Mycroft, le frère de Sherlock, mais aussi l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Il sera bien sûr aussi question de Moriarty, l'ennemi de Holmes, et la disparition des deux hommes dans les chutes de Raishon machin truc, comme dit Tom, sera également un point essentiel de cette série. Je ne vous en dis pas plus. Les auteurs de cette bande dessinée se sont appropriés toute la mythologie de Sherlock Holmes et ils ont créé un univers passionnant. Le scénario est bien construit, les dialogues sont réussis. Le découpage est très dynamique, avec des angles de vue très variés, le dessin est vif, les couleurs lumineuses, les décors sont très détaillés, cette série n'a que des qualités. La série a débuté en 2009, elle compte actuellement 7 tomes, elle n'est pas finie, heureusement, elle est publiée aux éditions Vent d'Ouest. Je vous le disais en début d'émission, trouver des chansons qui font clairement référence à Sherlock Holmes, ça n'est pas facile. Dans le titre des Kinks que nous allons écouter maintenant, le célèbre détective n'est cité qu'une seule fois. Il s'agit du titre Village Green Preservation Society.
We are the Village Green Preservation Society. God save the old duck, Bonneville and Variety. Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who were loving him. We are the Sherlock Holmes, English speaking vernacular. God save the Fu Manchu, the Moriarty and Dracula. Persecution affinity. God save the little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table dominions. Loving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? Preservation Society.
Je vous propose maintenant de découvrir le livre de Pierre Bayard intitulé « L'affaire du chien des Baskerville ». Dans cet essai, Pierre Bayard cherche à démontrer les erreurs commises par Sherlock Holmes lors de l'enquête qui est au cœur du roman « Le chien des Baskerville » paru en 1901. L'auteur reprend l'enquête point par point et nous promet de nous révéler le vrai coupable. Il commence par nous présenter les personnages et par nous retracer l'intrigue du roman, si bien que même si on ne l'a pas lu, on comprend tout. Pierre Bayard en profite pour rappeler comment fonctionne la méthode Holmes, basée sur l'observation et la déduction, une méthode qui n'est pas infaillible, ce n'est pas une science exacte. Il rappelle que Sherlock Holmes a parfois commis des erreurs et bien sûr il n'a pas réussi à résoudre toutes ses affaires. Pierre Bayard rappelle ensuite le contexte dans lequel le roman a été écrit. Dans ce roman, Arthur Conan Doyle redonne vie à son personnage qu'il avait assassiné dans la nouvelle Le Problème Final, publiée en 1893. Conan Doyle ne supportait plus le succès que rencontrait son personnage, il n'avait plus le temps de se consacrer aux autres romans qu'il voulait écrire, notamment des romans historiques, et surtout il se sentait oppressé par ce succès. Il faut dire que pour certains lecteurs, Sherlock Holmes existait vraiment. Au point qu'à sa mort, Conan Doyle a reçu des lettres d'indignation, des lettres de menaces, et on a même vu dans les rues des scènes d'émotion parfois proches de ce qu'on peut connaître aujourd'hui lorsqu'une star de la chanson disparaît. Sous la pression, Conan Doyle a finalement accepté de ressusciter Sherlock Holmes. Il ne s'agit pas tout à fait d'une résurrection, puisque l'action du roman se passe avant les événements de Reichenbach. Il ne redonne vie réellement à son personnage qu'en 1903 dans la nouvelle « La maison vide ». Les rapports ambivalents entre Conan Doyle et Sherlock Holmes renvoient à ce que Pierre Bayard appelle le complexe de Holmes, c'est-à-dire la relation passionnelle entre un auteur et son personnage, entre un créateur et sa créature, une relation qui mélange amour et haine. Conan Doyle aurait même déclaré « Je le tuerai » ou « C'est lui qui me tuera ». Pierre Bayard va plus loin, d'après lui, les personnages de fiction ont une existence propre, une autonomie même. Le complexe de Holmes en est pour lui une première illustration. L'autre phénomène qui lui fait penser que les personnages de fiction ont une existence autonome, c'est la place qu'ils occupent dans notre inconscient de lecteur, c'est la capacité que le lecteur a de s'identifier au personnage et de se laisser happer par un univers de fiction. D'ailleurs, ils sont encore nombreux aujourd'hui à penser que Sherlock Holmes a vraiment existé. Pierre Bayard revient ensuite à l'objectif premier de son livre, nous démontrer les erreurs du détective dans une contre-enquête. Il utilise sa méthode de critique policière, une méthode qu'il a déjà appliquée auparavant avec le roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd. Il reprend l'enquête du chien des Baskerville, il en profite pour réhabiliter d'ailleurs le fameux chien, et il nous propose une autre version des faits qui conduit à désigner un coupable jusque-là insoupçonné. On y croit un peu, beaucoup ou pas du tout, mais cet essai a le mérite de soulever les erreurs de raisonnement de Sherlock Holmes et les invraisemblances de l'enquête. Et ce qui est troublant d'ailleurs, c'est que ces erreurs sont présentées comme étant celles de Sherlock et non comme celles de l'auteur Conan Doyle, si bien qu'on ne sait plus trop où on en est et qu'on revient à la fameuse notion d'autonomie des personnages défendue par Pierre Bayard. L'affaire du chien des Baskerville, c'est un essai de 166 pages, très captivante, paru aux éditions de Minuit, en 2008. Sherlock Holmes aimait la musique, il se rendait à l'opéra et jouait du violon. Dans la nouvelle La pierre de Mazarin, il fait croire à un des personnages qu'il est dans la pièce d'à côté en train de jouer du violon alors qu'il a en fait mis un disque sur le gramophone. Ce morceau qu'il est censé jouer et avec lequel nous allons terminer l'émission, c'est la barcarolle des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Merci d'avoir écouté Appel d'air et à bientôt pour une prochaine émission. Thank you.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.